Sylvain Aubé pour Grish. On est à Québec pour le mois multi. J'ai pour faire une entrevue avec Myriam et Justin Robert. Saint-Vallier, on approche le Vatan. On va le voir comment se porte la scène de l'art audio dans la ville de Québec. On est à la limite de la base de la Haute-Ville. Et on arrive à Nesut. Bonjour, bonjour Myriam, ça va bien?
Oui.
Donc bonjour, bienvenue au podcast Grish. Merci pour l'invitation. Donc on est dans les studios d'Avatar en ce moment et puis donc on est très heureux, très gâtés de pouvoir discuter avec toi de plein de choses, donc incluant l'historique d'Avatar et plein de points en commun qu'il y a pu avoir avec d'autres artistes qui ont passé au podcast Grish. Il y en a quelques-uns, donc Eric Dorion, Hélène Prévost qui était en performance hier aussi également. Donc, merci pour l'invitation. Puis, on va être heureux de discuter de l'historique d'Avatar. Donc, peut-être, oui, si tu peux te présenter en entrée de jeu, puis ensuite, je pourrais te poser quelques questions juste pour situer le centre. Puis...
Tout à fait. Donc, ben bonjour. Merci d'être là. En fait, on est très heureux de vous accueillir pour ce podcast et pour le lancement de Grish hier. Moi, c'est Myriam Lambert. Je suis artiste à la base, mais je suis aussi à la direction générale et artistique Avatar. Donc, en fait, je travaille à Avatar depuis 15 ans. Donc, Avatar a 30 ans cette année. Donc, c'est pour ça que l'historique, oui, je le connais quand même. Bien, quoique en soi, il me manque quand même un 15 ans, mais que j'ai eu un bon retour des fondateurs également, parce qu'on est quand même assez proches.
Peut-être une petite parenthèse pour mentionner que tout à l'heure, on va aussi avoir la chance d'interviewer Jocelyn Robert, donc peut-être quelques années vont être couvertes aussi une autre partie de l'historique. Donc peut-être, moi, y présenter... peut-être pour les gens qui ne connaissent pas le centre, mm-hmm. juste pour situer, hein. Qu'est-ce que fait Avatar?
Tout à fait. Donc, en fait, nous, on est un centre d'artistes en art sonore et électronique. Donc, quand je dis art sonore et électronique, c'est qu'on peut faire que de l'art sonore, que de l'art électronique, ou on mixe les deux. Donc, on est situé à Québec, dans Méduse. On accueille des artistes en résidence, entre 20 et 40 artistes en résidence par année. C'est certain qu'il peut y avoir aussi des duos, donc c'est pour ça que je dis entre 20 et 40. Puis, en soi, on peut accompagner les artistes autant à partir de l'idéation, de la création, de la production, aller jusqu'à la diffusion, aller jusqu'à l'édition, jusqu'à la circulation. Donc, en soi, on prend l'artiste où est-ce qu'il est rendu dans son projet, puis par la suite, on l'accompagne au mieux possible. Bien entendu, c'est difficile de pouvoir accompagner toutes les artistes d'un bout à l'autre. Donc, il y a vraiment des productions qui sont sélectionnées plus particulièrement. En soi, c'est à peu près 4, 5, 6 productions par année qui sont vraiment avatariennes. Sinon, c'est vraiment des accompagnements au cours de la production. Comme je disais tout à l'heure, on fait, oui, des résidences, mais aussi des diffusions. Donc, on peut aussi diffuser, surtout en collaboration. Donc, ça peut être aussi avec le Mois Multi, la Manif d'art, Mutech. On peut diffuser aussi à l'international, donc ça peut être avec d'autres partenaires festivals. Donc la diffusion, on la fait, mais pas toujours, mais souvent en collaboration. Donc, parce que notre mandat est vraiment plus au niveau de la production.
Excellent, excellent. Puis, comme on discutait tout à l'heure aussi, Avatar, ça occupe, donc Avatar occupe une place spéciale dans l'écosystème des centres d'artistes au Québec. Mm-hmm. Puis, à ma connaissance, à Montréal, donc, il n'y a pas l'équivalent directement d'Avatar. Donc, je ne sais pas si tu as eu cette question-là. Donc, moi, je me posais la question, pourquoi il n'y a pas un équivalent à Montréal d'Avatar?
Bien, c'est certain que de mixer art audio et art électronique, déjà, je dirais même qu'au Canada, je ne crois pas qu'il y ait cette spécialité, spécificité propre à un autre centre. Donc, c'est notre... finalement, on est spécial. Mais en soi, c'est certain qu'il y a d'autres studios de son. Oui, il y en a à Montréal, il y en a aussi à Gatineau, il y en a à Sherbrooke. Bref, il y en a d'autres au Québec. Mais c'est certain que de mixer autant art audio, art électronique ensemble, ça, c'est vraiment propre à nous. Puis d'avoir un focus, je dirais, sur l'art audio propre, ça, c'est clair que c'est plus nous. Mais en soi, on a la possibilité d'accompagner les artistes vraiment pour cette discipline. Pourquoi qu'il n'y en a pas ailleurs? Peut-être que c'est aussi parce qu'on couvre aussi un large spectre. C'est pas seulement Québec. Donc, on n'accueille pas que des artistes de Québec, mais bien des artistes de Québec, du Canada et de l'international. Donc, on couvre quand même aussi tout un large... une large communauté, finalement.
Grish est un podcast en art audio, donc finalement, j'étais très content de finalement vous rencontrer. Et puis, ça me donne une chance aussi. J'ai fait que des entrevues avec des individus et pas avec des organismes. Mm-hmm. Donc, c'est la première fois qu'un organisme. Donc, c'est une chance aussi d'aller fouiller dans l'historique puis d'aller voir, donc, peut-être, c'est quoi la légende derrière Avatar. Et puis, donc, peut-être aussi, tu peux nous parler d'un peu l'historique d'Avatar.
Oui, tout à fait. Ben, en fait, on est un bébé de Obscure qui était un centre multidisciplinaire, je dirais, ici à Québec, dans la Côte-d'Abraham. Donc, quand Obscure s'est démantelé, il y a eu quand même plusieurs bébés, donc que ce soit Avatar, Antitube et Recto Verso, il y en a eu quand même quelques-uns.
J'ai pas la chance de connaître Obscure, donc c'est dans l'histoire des standards du Québec, donc qu'est-ce que faisait Obscure?
Bien, c'était vraiment lié autant à l'art vivant, donc aussi performance, théâtre, performance. Il y avait beaucoup d'art audio, justement, il y avait des laboratoires en art audio, beaucoup de cinéma aussi, donc c'était très multidisciplinaire. Mais c'est pour ça que quand Obscure s'est démantelé, il y a eu plusieurs bébés, finalement, qui ont créé Méduse aussi, parce qu'il y a eu le démantèlement d'Obscure. Au moment où est-ce qu'il y a eu ce démantèlement, il y a eu la naissance d'Avatar et la naissance de plusieurs autres organismes. Donc, puis la naissance de Méduse en même temps. Donc, en fait, pour Méduse, en fait, c'est 10 centres d'artistes autogérés, 9 centres d'artistes autogérés à l'intérieur de Méduse, plus un organisme qui est plus au niveau social, mais artistique en même temps quand même. Donc, en fait, on couvre plusieurs disciplines, autant justement Avatar avec l'art sonore et électronique, mais il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, Recto Verso avec le mot multi, Spirafilm, qui s'appelle Spira maintenant. Et on est rendu avec un cinéma. Donc, bref, on a plusieurs disciplines, finalement, mais en même temps, ce qui donne la possibilité, la richesse à nos résidences partout dans Méduse, c'est le fait que quand on a besoin de, je dis n'importe quoi, là, mais si on a besoin, par exemple, d'un atelier de bois, ben, pour être capable de créer son œuvre en art sonore, ben, son installation, donc on peut aller à l'œil de poisson. Donc, si on veut faire de l'impression, on peut aller à vue. Donc, on a vraiment créé une communauté qui se parle, qui s'entraide pour être capable de... finalement bien accompagner les artistes tout au long de leur processus de création. Ouais. Donc, c'est une richesse à chaque fois qu'il y a un artiste qui vient en résidence dans Méduse, bien, on collabore finalement, puis quand on a besoin d'un et de l'autre, bien, on s'entraide.
Thank you.
C'est Jocelyn Robert et Christophe Migonne qui ont fondé Avatar et plusieurs autres membres du collectif. Donc, en soi, les deux fondateurs ont été à la direction artistique, générale et artistique du centre, surtout artistique, je dirais, donc mais ils créaient vraiment en collectif. Donc, c'était vraiment une association d'artistes pour pouvoir créer autour de l'art audio, donc qui faisaient des œuvres en art audio. Et par la suite, c'est certain que de petit à petit, il y a eu justement le Moi Multi qui s'est formé avec Recto Verso, donc de pair avec Recto Verso. Donc ça, c'est, je dirais, à un moment où est-ce que Émile Morin s'est joint aussi à l'équipe. Tout le processus, Émile Morin est venu en tant que directeur artistique avec Jocelyn Robert par la suite. Puis le Moi Multi s'est formé avec Recto et Avatar. Donc, on est les deux fondateurs. Et par la suite, il y a eu... Jocelyn Robert est resté. Maintenant, si je parle des directions artistiques, Jocelyn Robert est resté. Et je ne vais pas me tromper, en 2007, si je ne m'abuse, 2006-2007, il y a eu par la suite un comité de commissaires. Donc, on appelait le comitaire.
Oh, oui.
Donc, le comité de commissaires était formé de Éric Dorion, de Jocelyn Robert et de Virginie Lagagnère. Qui par la suite a succédé, c'est Lorela Benavoli, puis elle est restée peut-être deux ans et demi. Par la suite, il y a eu Caroline Gagné à la direction artistique pendant au moins 5 ans. Et ensuite, c'est transformé vers Simon Elmalet et par la suite moi. Donc là, c'est comme toute la suite des directions artistiques.
Il y a eu une combinaison aussi de directeurs artistiques, directeurs généraux. Donc, il y a peut-être des gens comme Muriel Lehmann.
Oui, Muriel Lehmann qui était à la direction générale et direction technique. Ouais.
Ouais. OK. Puis, donc voilà, donc plusieurs personnes que ce sont... plusieurs époques, donc.
Oui, plusieurs époques, effectivement. Puis c'est certain que de fil en aiguille, pendant toutes les 30 ans, c'est certain qu'on a fait plusieurs collaborations avec l'étranger. Exemple, il y a eu Avatar à Vaureuth, il y a eu Avatar à Berlin. Bref, il y en a eu quand même plusieurs autres gros moments où est-ce qu'on partait en collectif pour aller diffuser nos œuvres, finalement, autant à l'étranger qu'ici. On a eu aussi beaucoup de collaborations. En fait, à chaque année, on collabore avec Manif d'art, comme je parlais tout à l'heure. C'est toujours des moments assez précieux où est-ce qu'il y a des diffusions de nos productions ou des productions qui sont en lien avec notre mandat.
Avatar, en tant que centre d'art audio, a joué un rôle important en distribution. Donc, c'était un chaînon manquant, en fait. Donc, il y avait des artistes, il y avait des salles de spectacle, mais la distribution elle-même donc, était manquante. Et c'est là que Homme... donc, oui, si tu peux m'en parler de...
C'est ça. C'est là que Homme Édition est arrivé. Donc, Homme Édition étant vraiment le label. Avatar fait... finalement, éditait des publications sous le nom de Home Édition. Et il y a aussi eu tout un temps où est-ce que c'était la plateforme de circulation, de distribution plutôt, c'était Vacuum. Donc, il y avait Avatar, c'était comme trois entités différentes. Mm-hmm. Donc, il y avait Avatar qui était là pour les résidences, Home Édition qui était là en édition et Vacuum qui était là en distribution. Donc, tout ce volet-là, en fait, a été quand même très marqueur où est-ce qu'on a un grand nombre de publications à notre actif, je dirais, de plusieurs artistes, autant québécois qu'internationaux. Tout le volet distribution, on l'a un peu enlevé à partir de 2016. Toutefois, on est en train de le remettre en place. Ça c'est un secret bien gardé. Mais on est en train de le remettre en place pour être capable au moins d'avoir toutes nos publications en ligne. Ce n'est pas encore fait. C'est tout un travail de droit d'auteur, je dirais, qui est assez complexe et qui s'en vient. Donc, je me suis fait poser la question depuis un an ou deux, on me pose beaucoup de questions par rapport à ça, surtout avec la pandémie qui a fait ramener encore plus les publications en ligne. Ça s'en vient.
Donc, un fonds d'archives important. Et puis, oui, ouais, il y a des enjeux ouais, de droit d'auteur. Mais physiquement, ouais, il y a une belle collection aussi dans, dans l'espace d'Avatar qui est ouvert au public. Il y a la collection, donc on voit toutes les parutions. Puis, oui, justement, Avatar ici, donc vous avez la chance d'avoir un espace public, donc vous pouvez recevoir les gens. Il y a un espace pour les spectacles, il y a un espace d'édition, mais peut-être nous dire quels sont les différents lieux du concept.
Ouais. Tout à fait. Donc, en fait, je peux commencer par l'espace commun. On circule dans l'espace directement. L'espace commun est vraiment là pour être capable de donner la possibilité aux artistes qui sont en résidence de pouvoir communiquer ensemble, parce qu'en soi, il n'y a pas seulement un artiste en résidence à la fois. Souvent, il y en a plus qu'un. Donc, ça fait en sorte que ça crée un lieu de rencontre. Il y a un petit studio, donc où est-ce qu'on travaille un peu plus au niveau stéréo. Puis, on a le grand studio, où est-ce que c'est vraiment le studio d'enregistrement et avec grande régie également, où est-ce qu'on peut travailler plus aussi en surround ou en spatialisation sonore.
Donc, on se trouve dans la grande régie.
Hein. Exactement. Okay. On se trouve dans la régie actuellement. Puis bien entendu, il y a les bureaux qui prennent vraiment pas tant de place dans tous nos espaces, bien qu'on soit 5 dans l'équipe. Peut-être préciser aussi qu'on a tout le laboratoire électronique qui est là pour pouvoir... c'est un petit laboratoire où est-ce qu'on est capable de bidouiller bien des choses, avec aussi une imprimante à circuit, donc où est-ce qu'on peut... déployer tous nos souhaits au niveau circuit électronique.
Puis on peut ouvrir une parenthèse aussi sur le côté technologique. Donc, Avatar, la technologie a joué un grand rôle. Puis, on a souvent combiné ce qui était des nouvelles technologies à l'époque, puis au fil des années. Donc, si tu peux nous parler un peu des trouvailles que vous avez faites aussi, ou peut-être des outils que, lorsque les gens venaient en résidence ici, qu'est-ce qu'ils pouvaient expérimenter?
Bien, c'est certain que, tout à l'heure, je parlais d'électronique, c'est certain qu'il y a, tous les volets de moteurs et circuits qu'on est capable de finalement, toute la programmation, on est capable de la monter pour inventer des instruments, pour créer des œuvres télématiques, des œuvres cinétiques, finalement, aussi. Donc, on peut passer autant de l'installation à la performance, aller jusqu'à l'instrument inventé, aller, bref, à l'excavation sonore également. Donc, en soi, il y a vraiment tout un pan, tous les pans, les pans de l'art audio, on tente de les couvrir. J'ai pas parlé d'art radiophonique non plus, mais on en fait également.
De l'historique pour compléter la boucle. Donc, avec la pandémie, les centres d'artistes ont dû se repositionner rapidement. Donc, dans votre cas, peut-être ça a été une opportunité parce qu'il y avait la diffusion en ligne. Donc, peut-être un mot sur...
Oui, bien, en fait, contrairement à quelques
Est-ce que vous avez pris des vacances?
Non, ça n'a pas été vacances du tout. Non, même au contraire, bien, en fait, c'est certain que puisque l'audio est... on peut diffuser l'audio autant au niveau de la radio, finalement, l'Internet et même à l'extérieur en art public. Il y a plusieurs artistes qui sont venus vers nous pour s'initier à l'art audio, puisque nos studios sont aussi très convenables au confinement. Ben, ça faisait aussi en sorte que ça l'amenait encore plus d'artistes à venir travailler dans nos studios. Nous, pendant la pandémie, ça n'a pas été du tout un moment de chaume, mais bien un moment de très grande effervescence. Puis en même temps, on a travaillé sur le projet Repère aussi, où est-ce qu'on a amené plusieurs artistes à soit travailler des œuvres sonores de 2 à 3 minutes ou d'arriver s'initier carrément à l'art audio. Parce qu'il y a des artistes qui ont été sélectionnés qui n'avaient jamais travaillé en art audio, mais qu'on a amené à travailler avec l'art sonore, finalement.
Et puis, on mentionne au passage que Repère était disponible sur Bandcamp, donc pour téléchargement et... Pendant un moment, ça a été peut-être la principale compilation au début de la pandémie. C'était la principale, avec presque une trentaine d'artistes, je pense.
Sur le Bandcamp, il y a présentement effectivement Repère, mais il y a aussi la majorité du bureau de l'APA qui a été en résidence en décembre 2021, si je n'abuse, puis qui est arrivé avec un projet complètement ludique. Ça vaut vraiment la peine de prendre le temps d'écouter. Donc, dernière résidence de Simon Drouin, en fait, qui a pu faire. Sinon, il y a aussi La Fête, mais La Fête, c'est un projet de vue, donc vue photo, qui a été en collaboration avec Avatar. Donc, c'est pas édité par Avatar, mais c'est quand même sur notre Bandcamp, puisque on a travaillé avec eux tout le niveau sonore, tandis qu'eux, ils ont travaillé tout le volet photographique. Puis sinon, il y a Interstice ductil qui est issu du projet Plein Jeu dont je parlais tout à l'heure. Donc, en fait, Plein Jeu qui rassemblait 12 artistes au total. Donc, dans Interstice ductil, on a 3 artistes qui ont présenté le fruit de leur production pour orgue à tuyaux humidifiés.
Qui sont Jocelyn Robert, Simon Elmalet.
Oui, Simon Elmalet et Vincent Thériault.
Parfait, excellent. Donc, ça fait un peu le tour de mes questions de mon côté. Ouais, est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées?
Peut-être préciser que une des choses importantes d'Avatar, c'est la famille, je dirais. Dans le sens que,
la communauté.
Oui, exact. Puis, je le précise parce que, oui, on peut bien parler de l'équipe où est-ce qu'on est toute une belle petite famille, mais on peut aussi parler de tous les artistes qui sont aussi membres actifs, qui sont très impliqués aussi dans Avatar. Donc, un des points très, très importants, c'est vraiment la notion de rencontre, la notion de famille qui est très présente. Puis je dirais même avec le conseil d'administration, c'est exactement la même chose. Donc, on est toute une famille bienveillante envers les artistes qui viennent en résidence. Donc, c'est une particularité qui est quand même assez... qui est assez propre à Avatar. C'est ça, pour le 30e anniversaire, un des points importants, parce qu'en fait, on a parlé de passé, mais peut-être parler du futur aussi, qui s'en vient. En fait, toute la notion de rencontre dans la programmation a été mis de l'avant, autant au niveau de la rencontre avec l'autre, avec le public, mais la rencontre aussi avec l'œuvre, bien entendu, mais la rencontre en soi. Donc, tout le processus de toute la programmation a été monté sous l'égide de la rencontre. Et justement, vous allez voir qu'il y a quand même plusieurs moments, que ce soit de diffusion, de rencontre avec l'œuvre ou avec l'artiste qui sont à la programmation et qui vaut la peine jusqu'en décembre 2023.
Ça, c'est dans l'année qui s'en vient. Donc, pour tout 2023, c'est disponible sur le site. Donc, on voit les événements qui s'en viennent.
Exactement.
Et puis, juste pour le côté ludique, est-ce qu'il y a des anecdotes particulières à Avatar? Ou est-ce qu'il y a des secrets d'Avatar ou est-ce qu'il y a des anecdotes sur le lieu, genre des choses? Est-ce qu'il y a des fantômes dans le building?
Ce genre. Ben, je peux quand même parler du fait que tantôt j'ai parlé de Méduse, puis il y a eu un temps où est-ce que pendant la pandémie, de ne pas avoir la possibilité d'être toujours dans le studio parce qu'on se limitait quand même au nombre de personnes de l'équipe qui venaient en studio. C'est certain qu'il y a eu aussi la relocalisation de Méduse. Donc, on a dû quitter nos studios pour partir vers la Maison Jaune, qui est maintenant la Charpente des Fauves. À l'époque, il n'y avait pas encore toute cette effervescence à l'intérieur de la Charpente des Fauves. Bref, une bonne partie de Méduse s'est ramassée dans les locaux qui sont tout près de Méduse.
Deux ans, j'imagine?
Oui, un an et demi, je dirais, de relocalisation en même temps que la pandémie.
Donc là, vous venez de revenir.
Oui, c'est ça. Ça fait un an qu'on est de retour et qu'on est très heureux de retrouver nos studios. Ce qui a fait en sorte quand même, parce que Méduse, oui, on est vraiment très, très... Très, très proche. Mais là, on est encore plus proche parce que même nos murs étaient les mêmes, un à côté de l'autre, où est-ce que quand il y avait quelqu'un qui faisait une impression à vue, mais nous, on l'entendait quand même bien à Avatar, pas dans nos studios, mais dans nos bureaux. Donc, c'est devenu une... on est encore plus ça, une famille qu'on l'était
ça
avant.
Ça vous a soudé.
Oui, tout à fait.
Une autre aventure.
Oui. Oui.
Excellent. Bien, merci beaucoup, Myriam. Donc, c'est très généreux de ta part. Puis, on invite les gens, évidemment, à aller consulter l'historique sur le site web d'Avatar.
Tout à fait. Donc, merci beaucoup, Sylvain.
Pour plus d'informations, consultez notre site griche.org. À très bientôt!